Sur le choix des
vas-y.
Sur le choix des sites.
Ouais.
Enfin, il faut bien imaginer quand même que dans les Alpes françaises, il y avait peut-être 150 stations qui auraient pu prétendre à organiser une.
C'est vrai qu'on est garni.
Donc il faut pas le perdre de vue. Je veux dire, quand on est en train de dire Val d'Isère, il va rien se passer à Val d'Isère. Vous voyez comment ils réagissent à Val d'Isère.
Bah, ils sont la demi, là. Oui, ils sont tous les deux.
Qui est le premier? Ils sont en train de dire quand même, on fait des Jeux Olympiques sans parler de Val d'Isère.
Qu'est-ce qu'on fait de la Belvarde?
Et voilà.
Oui.
Bon, mais t'as raison sur les équipements qui existent déjà, comme la piste Camille Ricou à Orcières. De même, Mademoiselle Siffrine, elle vient faire du ski demain à Orcières. Elle va revenir.
C'est
que Jean-Marc Fasson va l'emmerder encore, mais.
Qui ça?
Non, Stéphane.
Ah, d'accord.
Stéphane. Pardon.
Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? On se mélange les pinceaux, c'est
Remember. Il y a des fantômes qui flottent au-dessus de
Remember,
ces JO.
Remember, les JO, c'était où déjà
2024 à Briès, non? Non, je me suis trompé. C'est Val-Louise.
Puis ça, Vincent.
Val-Louise. Jeannot Conro.
Tu voulais un dernier mot, peut-être?
Ben oui, un dernier. Enfin, c'est pas vraiment le mien. Je sais pas si vous avez senti la table à bouger.
Oui.
Je crois que c'est parce qu'on a les mains dessus. Et moi, il y a l'esprit de Jean-Claude Hérault qui m'a transpercé. Et il m'a dit, si tu dis pas ça, je te tue.
Oh.
Eh oui. Et il m'a dit,
il m'a peur.
Je pose la question.
Jean-Claude, sort de ce corps.
Ça me ferait des cheveux en plus. Il m'a dit, pose la question concernant les logements des saisonniers.
Ah. J'en parlais tout à l'heure, l'accueil des athlètes.
Eh oui, parce que s'il avait été là, il l'aurait demandé. Donc je vous pose la question, Président. Est-ce que s'il y a des infrastructures immobilières, certaines plutôt pourraient être considérées comme pour la suite des logements qui seraient...
Mais on n'en a pas parlé parce qu'effectivement ça va être vecteur d'emploi.
Eh oui, c'est important.
Ça va être vecteur d'emploi encore plus qu'aujourd'hui. Donc effectivement saisonnier et donc logement.
Mais déjà le problème des saisonniers, déjà un problème d'actualité.
Ah oui, bien sûr.
C'est pour ça que Jean-Claude parle.
Mais oui, mais moi j'en parle souvent avec lui. Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore la bonne organisation pour pouvoir faire des opérations à destination du logement des saisonniers. Quand on en parle, par exemple à l'OPH, à l'office d'HLM. Bon, l'office d'HLM, c'est on fait des travaux et derrière il y a un locataire qui paye un loyer. Bon, sauf que quand on est saisonnier, le loyer, on va le payer pendant 4 mois l'hiver. Peut-être 2 mois encore l'été si, pour certains emplois. Mais ça ne fait jamais que 6 mois. Qui c'est qui paye les 6 autres mois de loyer pour équilibrer l'opération? On n'a pas trouvé la porte de sortie encore. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui se pose pour tout le monde. L'État est prêt à aller dans des opérations comme ça. L'OPH est d'accord. Il y a des employeurs qui sont prêts. Il y a des gestionnaires de remontées mécaniques qui attendent qu'on fasse des propositions pour éventuellement mettre la main à la pâte pour monter des opérations. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et quand on le met en perspective avec les Jeux de 2030, eh ben, c'est un sujet. Il faut qu'on trouve les solutions dans les mois qui viennent pour faire des opérations rapidement.
Il faut peut-être aller voir un peu les EPF, parce que les EPF, ils ont un peu du mal à venir dans nos départements alpins.
Les quoi?
Les établissements publics fonciers.
Oui, oui, ben, alors, tu es gentil, tu expliques, parce que... Parce que là, tu arrives, en fait, l'auditeur n'est pas forcément au courant.
C'est une agence qui est nationale, qui est alimentée par de l'impôt et qui intervient sur la planification foncière, mais essentiellement en milieu urbain. Mais ils ont des fonds importants, ils travaillent énormément sur l'arc méditerranéen, mais très peu dans les départements ruraux. L'EPF va sûrement travailler sur le centre-ville de Gap, là, le quartier là qui va être
le carré
de la
Plumerie.
On a fait une opération avec en collaboration avec la mairie d'Embrun sur un stockage foncier où l'EPF est venu acquérir du foncier pour un projet de développement.
Le maire d'Aubryanson travaille avec l'EPF pour faire
Là, c'est le moment de les solliciter aussi. Parce que moi, ce que je reproche souvent, il faut que les collectivités locales s'améliorent, c'est sur la possibilité de phaser les travaux et de travailler dans la longueur et pas sur l'immédiat. Et je pense que dès maintenant, il faut travailler avec les EPF sur le problème du logement, sur les problèmes des infrastructures comme ça, parce qu'il y a quand même des moyens à aller chercher. On a des agences, on en a beaucoup en France, certaines servent à rien, mais il y en a certaines qu'il faut savoir utiliser.
Merci pour cette intervention plein à propos.
C'est gratuit.
Bon, merci, cher ami. Nous allons sauter du coq à l'âne, si vous le voulez bien. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 11 décembre. On enregistre aujourd'hui, lundi 11 décembre, ce coq à l'âne. Et il pleut. Il pleut et il a beaucoup plu. Alors, on va parler des intempéries qui ont ravagé certains secteurs de Hautes-Alpes. Je souris en pensant, évidemment, à mes amis du nord de la France et notamment du Pas-de-Calais qui sont sous l'eau depuis 3 semaines, 1 mois maintenant. On n'imaginait pas, quand je regardais ça à la télé, j'imaginais pas avoir quelque chose comme ça dans les Hautes-Alpes. Alors évidemment, ça n'a pas la même mesure, ça n'a pas le même impact, même si certains ont été quand même très impactés. Alors c'est toi qui voulais parler de ce sujet, Bruno.
Bah oui, parce que ça nous a, enfin moi ça m'a quand même un peu traumatisé. Hein. Bon,
on a tous été traumatisés par ce qui s'est passé en quelques heures.
Enfin, un torrent qui déborde comme ça avec les enfin, c'est une crue centenaire. Ça fait peur, quoi. C'est vrai que ça a fait peur quand on voit les dégâts que ça fait. Moi, j'ai été surpris de voir que l'Intermarché a été inondé. Je n'aurais pas imaginé qu'il puisse être inondé à cet endroit-là. Ça fait réfléchir. Et moi, ce qui me toujours dans les outils qui servent les collectivités à phaser leurs travaux, il y a les plans de prévention des risques.
Tiens, t'as pas dit les PPR.
PPRN.
C'est bien. Non, mais tu t'améliores. Moi, bon. Je dis un bon.
Je suis réactif. Hein, ah, mais nickel. Voilà. Donc, moi, les plans de prévention des risques, les PPR, j'ai peur qu'ils soient encore plus restrictifs à terme.
Oui, mais c'est pour le bien.
Oui, mais jusqu'où, enfin, je sais pas. Et ça va peut-être handicaper le développement de nos communes de montagne et le maintien de l'agriculture, parce que c'est souvent les bonnes terres qui partent à l'urbanisation. Donc, je sais pas. Va y avoir, à mon avis, un renforcement de cette politique-là. Et je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Est-ce que tu es d'accord avec ça, Jean-Marie, ou pas ? C'est embêtant, les PPR, ouais. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit que ça sert quand même à quelque chose.
Oui, ça sert à quelque chose. Enfin, bon, quand on se remet dans la situation de Guiesque et de Risoul, c'est une crue centennale qui est arrivée là. 180 mm d'eau sur ce bassin, ça fait vraiment un volume de flotte qui est
hallucinant.
Hallucinant.
C'est un peu un événement Cévenol là qui s'est produit.
Pardon ?
C'est un événement Cévenol qui s'est produit ou...
Ah, complètement. C'est ce que disent les météorologues maintenant, ça ressemble au phénomène Cévenol. Donc là, c'est un torrent de montagne, donc derrière, il y a des transports de matériaux qui sont impressionnants. Autour de la mairie de Risoul, depuis la mairie de Risoul jusqu'à l'Intermarché, il y a 30 ou 40 000 mètres cubes de matériaux qui sont descendus. Enfin, puis des blocs gros comme des voitures. On se demande d'où ça vient, tout ça, quoi. Bon. Et là, la gestion des cours d'eau, les torrents de montagne et les cours d'eau, c'est deux choses un peu différentes. Parce que dans les cours d'eau, il y a un mois ou un mois et demi, dans la Sèvresse et dans le Drac, il est tombé beaucoup d'eau. Il y a des digues qui ont été emportées, des captages d'eau des ASA. Il y a des bouts de route qui ont été emportés. Bon. Et quand c'est fini, bon, il n'y a pas beaucoup de dégâts, il faut réparer. Mais quand c'est fini, que la Sèvresse elle revient à son niveau, on voit au milieu de la Sèvresse, au milieu du Drac, des embâcles impressionnants. Il y a des bois, il y a des milliers de mètres cubes de bois qui sont posés là, sur lesquels on n'a plus le droit d'aller. On n'a pas le droit d'aller y mettre une pelle mécanique ou
un. À quel titre ?
La protection des milieux naturels. Voilà. Si vous allez au mois de janvier, il y a des frayères, il y a des poissons qui sont en train de frayer. Vous allez au mois d'août, il y a trop d'eau, il n'y a pas assez d'eau. Enfin, on n'a pas le droit d'y aller. Et donc moi j'avais alerté le préfet pour lui dire, là il faudrait quand même qu'on fasse une opération. Je ne parle pas d'enlever des matériaux, d'enlever simplement les bois morts qui sont dans les cours d'eau.
Ouais.
Et ça va arriver. Puis après, il y a le deuxième phénomène, l'accumulation de matériaux. Je veux dire, il y a 20 ans en arrière, on donnait des autorisations à des carriers d'aller extraire des matériaux. Ils payaient la collectivité sur laquelle ça se trouvait. Ils payaient, bon, pas grand-chose, mais c'est eux qui payaient. Maintenant, on n'a plus le droit de faire ça. Le niveau de gravier dans les rivières, allez vous promener dans la Clarée, vous allez voir. La rivière, elle est plus haute que la route. Et maintenant, on me dit à moi, gestionnaire de la route.
Il faut remonter la route.
Attendez, pourquoi on va remonter la route ? Pourquoi on ne baisse pas la rivière ?
On pourrait la nettoyer un petit peu. Hein, voilà. Un petit peu.
Moi, je suis allé voir le Drac, moi, près de la base de Loisir. Mais c'est pareil. Au milieu, il y a 3, 4 ou 5 mètres d'alluvion qui pourraient être récupérés, exploités pour les carrières. Et par contre, il faut les laisser. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'eau, du coup, elle a contourné le milieu de la rivière
et, voilà.
et elle a rogné les berges. Et on ne fait rien. Et alors après, je suis d'accord qu'en aval de la base de loisirs, le Drac a creusé jusqu'à l'argile. Bon, à ce moment-là, qu'on protège cette zone, d'accord. Mais là où il y a de la marchandise, ben, on la récupère. Quoi. Je veux dire, on n'a jamais fait de mal. Et parce que là, je me demande, la biodiversité... ce qu'il en est, ce qu'elle est devenue quand on a vu les trempes d'eau qui sont passées. Enfin, j'ai un peu du mal avec tout ça. Bon, je comprends pas
c'est
ça.
C'est un peu le problème de toute la réglementation qu'on a, des zones Natura 2000, des choses comme ça dans lesquelles tu peux pas intervenir, quoi. Et si tu peux pas aménager à minima ton territoire, nettoyer des rivières, ne serait-ce que les agriculteurs qui entretenaient leur haie, qui
créaient les plus gars, maintenant.
Comme on... Ouais, mais bon, ça.
Les bocages. Il y en a de moins en moins.
Oui, mais attendant, les ça te tenait les.
Tu vas en Normandie, il y en a plus.
Chez toi, dans le Nord. Mais ici, il faut pas nous capser les pieds avec l'absence de bocages. Tu montes au col du Noyer, tu regardes le Champsort, tu vas me dire s'il manque des.
Ah non, mais je. Voilà. Donc, m'engueule pas, s'il te plaît, je ne suis pas responsable.
Chez les ch'tis, je suis d'accord qu'il manque des.
Bah, c'est
mais
pas,
chez nous.
C'est pas sur les. Surtout, là, on parle plus du côté normand. Hein,
oui,
dans le Pas-de-Calais. Oui, c'est, oui. Mais le problème, c'est qu'on a construit, bah, vous le savez, on va pas faire de. On a construit tout et n'importe quoi.
Tu as fait des lotissements dans des zones inondables.
Et le résultat, il est là, quoi.
Non, mais ce qui est dommage un peu, c'est quand on va traduire, chacun donne un avis là-dessus, mais quand on prend l'exemple du supermarché à
Guillestre.
Il y a des gens qui sont déjà en train de dire, mais pourquoi on a laissé construire
un supermarché là.
Enfin, c'est un peu ridicule ça, de poser des questions comme ça. Hein.
Marc,
si on avait permis au maire d'entretenir le lit du Torrent, ça ne serait pas arrivé.
Ça serait pas arrivé.
Ouais. Ouais, alors, que c'est les mêmes qui disent il ne faut pas construire l'intermarché là, mais c'est les mêmes qui interdisent de couper les arbres qui pourraient éventuellement obstruer le cours d'eau.
Ouais. L'avantage, oui, excuse-moi, tu voulais dire un mot.
Non, mais face à ces récits et ces explications que je ne connaissais pas, je vous l'avoue, je ne comprends pas que quelque part, il n'y ait pas quelqu'un qui leur fasse un procès. Parce que quand à un moment donné, on a un avis et que les politiques suivent l'avis et que cet avis est donné par des spécialistes et pas uniquement des écologistes, parce que être écologiste, par exemple, ce n'est pas être un spécialiste. On est d'accord, hein? Enfin, il me semble.
Sinon, c'est un écologue.
Voilà, il est spécialiste. Enfin, un écologiste est a priori un spécialiste de la sauvegarde de la planète, mais il n'est pas le spécialiste de la sauvegarde des infrastructures.
Ouais.
Donc, comme on prouvera jamais, personne prouvera que toutes les actions, toutes les idées, les actions des écologistes sauveront la planète. En plus, la planète, on s'en fout, c'est plutôt les hommes qui vivent dessus. Parce que s'il n'y a plus d'hommes, la planète, on s'en va les cacahuètes. Mais bon. Donc, je me demande pourquoi, à partir de maintenant, parce que ça commence à faire des décennies que ces gens-là sont un peu des aïeux. Enfin, pas tous, mais quand ça prend des proportions comme ça et que ça peut tuer des personnes et que ça casse des infrastructures et qu'on en est à se poser la question, parce que je m'en souviendrai de cette histoire de demander à lever la route.
Oui,
parce que la
route
est au-dessous de
la rivière.
Elle est en dessous de la rivière.
Quand on en arrive à des extrémités comme ça, pour moi, c'est grave.
Là,
je pense qu'à un moment donné, on devrait demander des comptes, mais des comptes, des vrais comptes, à ceux qui nous ont obligés de faire ça.
Voilà. Alors, vas-y, Jean-Marc.
Protecteur-payeur.
Savez-vous ce que c'est que l'OFB?
J'aime bien ça. Alors,
l'Office de la faune et de la biodiversité.
Voilà.
Bravo.
Il me contrôle quand je suis chasseur des
voiliers. C'est parce que t'es chasseur, toi.
Alors, donc ça c'est une agence nationale. C'est une caricature du début de nos malheurs.
D'accord.
Parce que ces gens-là, ils ont un pouvoir sur tout. Donc c'est eux qui vont vous interdire d'aller mettre une pelle mécanique dans la rivière. C'est eux qui vont vous interdire de renforcer une digue. Mais ils sont intouchables. On ne sait pas qui c'est. Même le préfet n'a pas la main sur ces gens-là. Même le préfet. Et il y a quelques agences comme ça.
Et c'est des agents qui sont armés en plus. Non, mais c'est vrai.
Ben oui. Ouais.
Moi, j'ai vu des gens de l'OFB avec le pistolet. Là. Je ne savais pas.
Ouais.
Je suis resté surpris.
Ça, c'est quand ils contrôlent les chasseurs.
Ouais. Ben oui, ouais. C'est vrai.
Parce que les chasseurs, maintenant, aussi, comme on va chercher des cartouches chez les buralistes.
Et moi, j'en ai fait des frais.
On fume les lièvres. Ils ont peur qu'on leur tire dessus.
En tout cas, ça ne coûtera pas. Enfin, ça va coûter, mais vu que ça ne coûtera pas, je vais dire, d'argent local, puisque l'état de catastrophe naturelle va être reconnu. Ah, tu n'es pas d'accord? Non, mais dis-moi, Jean-Marie.
Oui, non, mais l'état de catastrophe naturelle, ça va permettre d'enclencher des procédures avec les pôles particuliers, avec leur compagnie d'assurance.
Mais tu veux dire que le fait que ce soit état de catastrophe naturelle, ce n'est pas quelque chose qui sera pris en compte par l'État ?
Ah non, sur les pour établir les routes, les équipements publics, bon, on a un engagement verbal de Madame la ministre Dominique Faure de la semaine dernière. La région nous dit on va vous aider, mais on va faire quand même avec de l'argent public.
D'accord.
Alors justement, départemental.
Jean-Marie, ça tombe bien. Ça tombe bien, puisque c'est le prochain sujet. C'est le sujet du budget qui va être voté dans quelques jours.
Oui.
Voilà. Alors, comment ça se présente ? Est-ce que justement, à cause de tout ça, il va falloir rogner un peu ? Est-ce qu'on va toujours avoir de l'investissement ou est-ce que celui-ci va être en berne ? Parce qu'on est dans une période un peu compliquée.
Non, mais il faut relativiser les choses. On va voter un budget de 280 millions d'euros. C'est pas 2 ou 3 ou 5 millions d'euros de travaux supplémentaires imprévus qui vont faire changer la nature et la structure de notre budget.
D'accord.
Il y a peut-être une opération qu'on voulait réaliser en 2024, et bien on la fera en 2025, mais pour aller à l'essentiel et réparer ce qui doit être un peu dans l'urgence, mais il n'y a pas à s'inquiéter. Et puis, moi, à partir du moment où un ministre, le préfet me dit « on va vous aider » et que Renaud Muselier me dit « on va vous aider », ça veut dire que les dépenses que je vais engager, elles seront peut-être cofinancées à 50% par l'État et la région, donc ça va nous coûter quelques millions d'euros, mais pas plus.
Investissement ?
Sur un budget d'investissement de plus de 60 millions d'euros, dont 30 millions sur les routes. Bon, donc ça ne va pas nous faire aller
de travers. Vous avez une question à poser à Jean-Marie pour le futur budget ?
Non, ce n'est pas sur le futur budget, mais est-ce qu'on a un petit peu imaginé, là, à l'heure actuelle, les dégâts, le budget qu'il va falloir mettre pour refaire ce qui a été emporté dans l'IS3 ? Ça, vous avez une idée précise là maintenant ? Parce que bon, là on est sur des travaux d'urgence, mais je suppose qu'après il va y avoir des travaux lourds quoi, à réaliser.
Ouais. Moi j'imagine un peu de ce que j'ai vu et ce que mes services ont pu me dire jusqu'à maintenant, c'est que dans la région, on met dedans, on met Crévoux, il s'est passé des choses aussi un peu à Réalon, il s'est passé des choses un peu dans le Champsaur-le-Valgo, il y a un pont à Orcières qu'il faut refaire. Mmh. Bon. Tout ça, ça peut nous coûter peut-être une dizaine de millions d'euros. Bon, mais une dizaine de millions d'euros, si je vais chercher 50% de subvention à l'État et la région.
Oui, voilà. Non, mais voilà.
Et bon. Si ce sont des entreprises locales qui travaillent ?
Je veux dire, quand on a eu le problème dans le Kera avec le pas de l'ours, le pas de l'ours, ça m'a coûté 30 millions.
Oui, oui.
Bon, c'est pas pour ça qu'on a abandonné tous les travaux ailleurs. Bon, 30 millions, l'État et la région sont venus à notre secours à hauteur de plus de 50%. Bon, mais ça nous a coûté quand même une quinzaine de millions d'euros sur notre budget à nous.